On voulait mettre l'accent sur écouter Dieu. Et écouter Dieu, il nous parle par sa parole. Et ça sera l'échange de ce matin, une réflexion autour de la parole de Dieu. Parce que, je sais pas vous, mais si vous êtes en relation avec une personne, alors que ce soit un ami proche ou que ce soit une fiancée, eh bien, on a envie de passer du temps avec cette personne, on a envie de l'écouter. Alors, je sais, pas toujours, ceux qui sont mariés vont me dire pas toujours. On va dire dans les débuts. Et on va lire, hein, on va lire ce qui nous a écrit. Hein. Moi, j'étais assez touché de retrouver il y a quelques années des lettres que mes parents s'étaient envoyées. Et ils les avaient encore. Et mon père me disait, je les apprenais par cœur à un moment donné, parce que c'était à l'époque où on s'écrivait, alors c'est une époque que les moins de 20 ans connaissent pas. On mettait des timbres, on attendait. Aujourd'hui, c'est par SMS, mais on peut les garder. Ou les mails. En tout cas, c'était un moyen d'entrer en relation. C'était un moyen de communiquer. C'était un moyen de se souvenir. Tiens, qu'est-ce qu'on m'a écrit? Tiens, qu'est-ce qu'elle m'avait écrit à cette époque? Tiens, qu'est-ce que mon ami m'avait écrit? Et pour ceux qui gardent des mails, des fois, des années, des fois, je retrouve les mails que j'ai changés avec celle qui allait devenir ma femme. Alors, on voit le ton qui change. Hein, au travers de notre relation, et c'est beau. Alors, je les ai pas en papier, malheureusement, mais voilà, il y avait quand même un lien, et on se replonge, on se dit, oh, qu'est-ce que j'ai écrit là? Mince. Mais en tout cas, c'était des paroles écrites qui laissent une trace, et dont on peut revenir, et on peut se souvenir. Et je me suis dit, on peut les relire à l'occasion pour se redonner quels étaient nos sentiments à l'époque. Comment j'écrivais ou comment je recevais ce qu'on m'avait écrit? Eh ben, c'est un peu ça, la relation que le Seigneur nous a donnée aujourd'hui. L'Église, le chrétien, la relation qu'il veut avoir avec Christ. Alors, on a vu, ça passe par la prière. On a vu toute l'autorité du Seigneur qui peut redonner vie à ce qui est mort. On a vu qu'il est le seul. Mais qu'est-ce qu'il nous a laissé? Sa parole. Il nous a laissé sa Bible. Comme ça, là, on peut se replonger dedans à chaque instant, chaque moment, pour dire qu'est-ce que le Seigneur voulait pour moi? Qu'est-ce que Dieu veut me dire aujourd'hui, dans ma situation? Qu'est-ce qu'il veut me dire sur ce que j'ai sur le cœur? Et c'est exactement ce qu'il nous a laissé pour être un disciple de Jésus-Christ efficace, vivant, sincère, car le Fils de Dieu est venu sur terre. On l'a chanté, on l'a prié. Comment connaître Dieu? Comment connaître ce Jésus? Une seule réponse. Comment l'entendre? Une seule réponse, la parole de Dieu. Jésus était la parole de Dieu, il s'est incarné. Alors comment connaître Jésus? Ben, par la parole de Dieu, inspirée par le Saint-Esprit qui résonne en nous et qui nous l'a fait comprendre, on l'a chanté aussi. L'Esprit nous fait comprendre les lettres. Les lettres qui ont été écrites pour nous. Et il n'y a qu'une seule réponse. C'est vrai que Dieu fait des miracles et je le crois encore. Mais aujourd'hui, attendons-nous déjà à sa parole. C'est-à-dire 99% du temps, Jésus parle, Dieu parle par sa parole. Il y a des choses extraordinaires qui s'y passent et j'en suis le premier convaincu. Mais déjà, plongeons-nous dans sa parole. Surtout qu'ici, on a la liberté d'en avoir celle qu'on veut, Summer, Second 21, avec des graphiques, sans graphiques, plein de choses, des commentaires. On peut avoir plein de choses. Par sa parole, Dieu nous parle. Et c'est voilà avec ça que je voulais laisser écouter Dieu par sa parole. Et je vais prendre un texte. Alors, il y en avait plein. J'ai pris celui-là, Deutéronome 6, 4 à 9. Et là, c'est le Deutéronome, Moïse qui va dire, « Écoute, Israël, l'Éternel, notre Dieu, il est seul l'Éternel. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Que ces commandements que je te donne aujourd'hui restent gravés dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants, et tu en parleras chez toi dans ta maison. Et quand tu marcheras sur la route, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras, qu'ils soient attachés comme un signe sur ta main et comme une marque sur ton front, tu les inscriras sur les poteaux de ta maison et sur les montants de tes portes. » Alors, un mot du contexte. Alors, le Deutéronome, c'est traduit par « seconde loi », mais en fait, c'est la loi redonnée. Il ne s'agit pas d'une nouvelle loi, c'est-à-dire que Moïse va redonner au peuple, parce que ceux qui étaient la génération du Sinaï étaient mortes dans le désert pendant 40 ans. Donc il y a ce peuple qui est là, qui n'avait pas participé au Sinaï, qui n'avait pas vu les grandes choses. Et avant de mourir, Moïse leur redonne, en fait il leur redit la loi. dit voilà. Et le Deutéronome, c'est ce que ça veut dire. C'est comme ça qu'on l'a traduit en tout cas dans, en grec. En hébreu, c'est Devarim, ça veut dire les paroles. C'est le premier mot du Deutéronome, hein, Deutéronome 1, verset 1. Si on lit, voici les paroles que Moïse adressa à tout Israël. Voici les paroles. Donc c'est les paroles. Devarim, c'est les paroles de Dieu pour son peuple. Les paroles de Dieu qui vont être écrites, mais c'est les paroles de Dieu. Et donc, c'est avec cette mission-là que Moïse accepte de redonner les paroles au peuple. Il dit, voilà, vous étiez pas là, mais avant d'entrer dans le pays promis, vous avez besoin d'entendre, vous avez besoin d'écouter, et vous avez besoin de ressasser. C'est tout ce qu'on va voir. En fait, c'est ce qu'il va dire. C'est-à-dire, c'est vraiment ce livre qui va clôturer toute l'aventure de Moïse, et le peuple qui va entrer maintenant dans le pays, mais il dit, je vous donne les paroles de Dieu. Parce que le pays promis, il est beau, mais il y a plein de dangers, on le verra. Il y a besoin de se rappeler, il y a besoin de partager, il y a besoin de lire, il introduit déjà tout ça. Il y a besoin de lire entre vous, vous avez besoin de vous exhorter. Vous avez besoin d'entendre. Et je l'ai partagé déjà à la réunion de prière. Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul Dieu. C'est récité deux fois par jour dans les synagogues et aussi en Israël. C'est ce qu'ils appellent le Shema Israël, écoute Israël. Donc c'est quelque chose qu'ils ont pris à cœur, le besoin d'écouter. Et c'est là-dessus qu'on va commencer, voilà, écouter Dieu devient une priorité. Et pour l'Église, aussi pour nous, on a besoin de se la redonner. On doit être attentif aux dangers du monde, comme Moïse mettait le peuple en garde contre le pays qu'il allait entrer. Et sa parole nous parle, elle nous reprend, elle nous exhorte. Et là, c'est ce que Moïse a tout résumé, dans ce inspiré par l'Esprit, c'est ce qu'il va dire. Écouter Dieu et apprendre à l'aimer, et ça c'est les premiers versets, hein, donc 6, 4 à 5. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ça c'est Moïse qui vient de dire ça. Alors on va se dire pourquoi il le dit? Pourquoi il va répéter ça? Et pourquoi nous on a besoin de l'entendre? Parce que dans le pays qu'ils allaient prendre possession, il y avait plein de peuples qui avaient chacun leur Dieu. Chacun leur Dieu, chacun leur croyance. Et l'idolâtrie va être un gros problème d'Israël. Et le peuple, il va pouvoir confondre Dieu avec d'autres dieux. Et Moïse dit non. Tous les peuples qui ont là n'ont pas Dieu. Le seul qui est Dieu, c'est celui que je te déclare aujourd'hui, ses paroles. Dieu se place comme seul Dieu. Il se place comme un rappel. Écoute Israël. Écoute Israël. Il dit attention, vous allez rentrer dans un pays où il y a des idoles, il y en a partout. Et comment tu veux ne pas tomber dans l'idolâtrie? Eh bien, il donne la réponse. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Il dit, c'est le seul moyen de résister, d'aimer Dieu. Il dit, si vous aimez Dieu, le seul Dieu, alors vous n'aimerez pas les idoles. Il dit, vous devez être des adorateurs et des disciples exclusifs de l'Éternel. C'est ça que je vous demande. Mais aujourd'hui, ne croyons pas que ça passe au... en dehors de nous. Hein. On pourrait dire, écoute, Église de Wittenheim, écoute, Matthieu, l'Éternel, ton Dieu. Hein. Alors oui, la Bible ne dit pas comme ça, mais on pourrait le prendre pour nous, parce que c'est la même chose. Dieu ne veut pas un cœur qui est divisé. Dieu ne veut pas nos chants, nos prières, notre adoration, le dimanche, de 10h à 12h. Ah oui, ça c'est ce que... Un prédicateur appelait ça les chrétiens sous-marins, ceux qu'on ne voit que le dimanche. Et toute la semaine, ils sont sous l'eau. Et ils sortent tous les dimanches. Et Irénée d'Apozo disait ça, c'était les chrétiens du chemin large. C'est des gens qui se sentaient bien. Ils se disaient chrétiens parce qu'ils allaient à l'église. Même une disait, ah ben, je joue de l'orgue le dimanche matin, je suis chrétienne. Parce qu'avant, c'était un orgue. Mais voilà, Dieu, il veut pas ça. Il veut pas de cette relation superficielle. Il dit, si tu veux être chrétien, si tu veux être mon disciple, si tu veux m'écouter, c'est un engagement de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. C'est la totalité de ce que nous sommes. Et aussi longtemps que nous vivons, aussi longtemps que nous sommes vivants, c'est ça le projet de Dieu, ni plus ni moins. Ça, c'est le projet de Dieu. Et il donne ses alertes au peuple face au pays promis, mais nous, on est pareil. On l'a vu combien de fois il est difficile de résister à l'envie du divertissement, dans un monde de l'apparence, dans un monde qui remplit nos agendas de plein de choses. Et on se dit, ah ben là, j'irai bien faire, mais j'ai autre chose. Et je dis, je suis pas en train de condamner qu'on fasse des activités, je dis juste la capacité que nous avons à avoir un cœur, à se laisser distraire, divertir. Mais dans un monde de tel on le vit, c'est normal, on va dire. Et c'est pour ça qu'on doit être pris. Attention, de toute ton âme, de tout ton cœur et de toute ta force. Eh bien, en préparant ça, je peux dire à quel point je ne suis pas dans le projet de Dieu pour nous. À quel point il me reste encore et encore à me présenter devant Dieu, à lui demander pardon, de ne pas accéder à cette demande, à ce projet qu'il a pour nous. Et parfois, je me dis, je fais pas ça. Je sais que je suis pas le seul, hein, mais voilà, je dis, on est en danger. Des fois, on en a conscience, et si on en a conscience, c'est le Saint-Esprit en nous qui peut nous dire, attention, attention. Et ça, des fois, on peut faire de bonnes choses. J'avais lu un témoignage où la personne lisait sa Bible. Elle était bien, elle pensait faire bien. Elle est, je suis avec le Seigneur. Mais le Seigneur lui a demandé d'aller se réconcilier avec son voisin. Elle ne l'avait pas fait. Parce qu'on a des fois un cœur qui choisit ce qu'on veut faire. On peut faire des fois de très belles choses, mais ce n'est pas ce que le Seigneur nous a parlé et nous a dit de faire. Et on n'a pas écouté. Et si nous nous laissons happer par le monde, eh ben, il y a le même risque pour Israël qui va faire des compromis avec les peuples autour, avec l'idolâtrie autour. Eh ben, Dieu devient l'option. L'Église devient optionnelle. L'Église devient quelque chose que l'on consomme, comme on pourrait consommer un divertissement. Si j'ai le temps, j'irai à l'Église. Si j'ai le temps, j'irai faire voir les frères et sœurs. Et on devient des consommateurs de l'Église. Et on devient des consommateurs de la lecture de la Bible. Quand j'ai le temps, quand j'ai envie, quand ça se casse dans mon agenda. Si ça rentre pas, j'ai pas le temps. Et du coup, on se refroidit. Bah, tout comme l'alerte lancée dans ces versets, hein, Moïse il dit, c'est l'entièreté de vos corps que l'Éternel veut, ni plus, ni moins. Inspiré par le Saint-Esprit, cet homme de Dieu dit qu'il est facile de se refroidir au contact du monde. On a des belles promesses, le monde nous en promet plein. Le monde y promet plein de choses. Et il nous interpelle encore aujourd'hui en disant, les promesses du monde, c'est pas les miennes. Et suis-je de toute ma force, de toute mon âme et de tout mon cœur avec le Seigneur? Là, je laisse l'interrogation à chacun. La réponse t'appartient ce matin. C'est pas à moi d'y répondre, moi je l'ai répondu pour moi-même. Mais c'est là où ensemble on peut prier pour cela. On l'a vu dimanche dernier, l'importance de la prière, et chacun, et ensemble, prier pour accéder au beau projet de Dieu. Et on pense toujours, oui, mais ça, c'était pour Israël. Mais Paul va reprendre cette idée similaire dans Romains 12. Dans Romains 12, versets 1 et 2, pardon, il va dire, « Je vous invite donc, frères, à cause de l'immense bonté de Dieu, à lui offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et qui plaise à Dieu. Ce sera là de votre part un culte spirituel. Ne vous laissez pas modeler par le monde actuel, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de votre pensée pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. » Voilà, Paul, il reprend l'idée. Et moi, dans mes traductions, j'ai la traduction, ça c'était la traduction Semeur, et dans la traduction Second, il dit « Lui offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint qui plaise à Dieu, ce sera de votre part un culte raisonnable. » En le sens que tout ce qui est en dessous, eh ben c'est pas raisonnable. Alors ça reprend aussi hein, notre manière de vivre. Et, voilà, Dieu est le seul Dieu, l'Éternel. S'il n'a pas d'égal, aimer Dieu est une nécessité absolue. Mais est-ce que c'est réaliste de l'aimer de tout notre être? Est-ce que c'était réaliste à l'époque? Est-ce que c'est réaliste pour nous, avec les influences, comme je l'ai dit, du monde, d'avoir un corps entier dédié à Dieu? Israël et les croyants, c'était la même demande, un cœur entier pour Dieu, avec les mêmes faiblesses. Paul nous dit la même chose que Moïse. Et Paul nous invite, comme il invitait le peuple, à ne pas nous laisser entraîner par le monde. Et on verra, malheureusement, on connaît un peu cette histoire d'Israël, va parfois se laisser entraîner et façonner par l'image du monde. Et elle va perdre la relation. Elle va perdre la relation unique avec Dieu. Et d'où les prophètes Jérémie, d'où tous les prophètes qui vont venir parler, de revenir à la parole. Car Dieu est seul qui nous a fait grâce. Et le Saint-Esprit va nous aider dans cette démarche. Mais nous devons apprendre à vivre en tant que disciples entiers à temps complet. Il n'y a pas que le pasteur qui est à temps complet. On est chacun à temps complet avec Dieu. Il prend pas de mi-temps, Christ. Il prend pas de disciple à mi-temps. Il veut entièrement, entier. Et c'est un programme difficile, hein. C'est pour ça que je mets réaliste avec un point d'interrogation, parce que est-ce que c'est réalisable humainement? Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut vivre? Mais pourtant Dieu nous invite du début à la fin de la Bible à vivre complètement pour lui. Mais Moïse s'arrête pas là, hein, poussé par le Saint-Esprit, il dit pas « voilà, ça c'est le plan de Dieu, débrouillez-vous, entrez dans le pays, au revoir ». Ah non, non, il va donner des clés, il va donner comment on peut vivre ça. Et ça c'est la suite du c'est la suite du passage. Deutéronome 6, 6 à 9, « Que ces commandements que je te donne aujourd'hui restent gravés dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants, tu en parleras chez toi dans ta maison, et quand tu marcheras sur la route, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Qu'ils soient attachés comme un signe sur ta main et comme une marque sur ton front, tu les inscriras sur les poteaux de ta maison et sur le montant de tes portes. » Voilà, Moïse y donne la clé, s'imprégner des paroles de Dieu, c'est-à-dire s'imprégner de la Torah, s'imprégner du Pentateuque, que nous on appelle les cinq livres qui existaient à l'époque, s'imprégner aujourd'hui de la Bible. En fait, il est en train de dire, vivez la Bible. Vivez les paroles de Dieu. Il n'y a pas le choix, vous pouvez pas faire quelque chose de réaliste si c'est pas ça qui domine vos vies. Il donne des exemples forts, gravés dans le cœur. Alors, je suis pas graveur, mais je suppose que ça prend du temps de graver quelque chose. C'est pas en une fois. Je pense qu'il va falloir, après il y a peut-être des gens qui savent mieux que moi, je suis pas artiste, mais pour graver quelque chose, pour graver une lettre, ça doit prendre du temps, ça doit prendre de la patience et parfois un peu de force. Moïse invite aussi le peuple à la méditation, à la lecture, au partage de la parole avec les petits, avec les plus grands. Quelque chose qu'on doit transmettre. Il n'est pas en train de dire, ce jour-là, vous lirez. Après, vous faites ce que vous voulez. Il n'est pas en train de dire, quand tu fais ça, tu le liras. Non, il va la rendre omniprésente. Il va la rendre omniprésente. Il va dire, si la parole est omniprésente dans votre vie, si elle est partout, c'est le seul moyen, le seul rempart que vous pouvez construire contre ce que vous allez rencontrer. C'est le seul moyen de vivre pour le Dieu unique, le Dieu qui te dit, je suis le seul Dieu. Écoute, Israël. Face aux adversités que vous avez rencontrées, Moïse donne un socle inébranlable, la présence de la parole de Dieu dans leur vie, en tout temps. Et en hébreu, l'Éternel apparaît dans tous les verbes du, quasiment, pas tous, mais presque, de la vie courante, comme respirer. Ça apparaît en fait, il dit on peut pas respirer si Dieu n'est pas là. Donc ils ont déjà aussi cette volonté de marquer. Alors ils l'ont pas toujours bien fait, mais ils ont envie de le faire. Et c'est pour ça que ceux qui connaissent des familles qui sont juives, ils ont ça, sur ce qu'on appelle les mezouzas. Ils l'ont mis sur le montant des portes. Hein. Tu inscriras sur les poteaux de ta maison et sur les montants de portes. Ils peuvent des fois avoir ça et quand ils rentrent, ils le touchent. Alors eux, ils l'ont pris au pied de la lettre. Hein. Voilà. Et vous avez peut-être vu aussi des juifs pieux avoir ça. C'est ce qu'on appelle les phylactères. Et les téléphimes, alors c'est des choses qui se nouent sur la main, et qui se nouent sur le front, et ça contient des paroles de la Torah. Donc ils ont pris au pied de la lettre, on est d'accord. Mais il y avait une volonté derrière. Il y a toujours le cœur de se dire, waouh, faut pas que j'oublie. Faut que ma maison, elle porte la Torah. Faut que ma main porte la Torah. Faut que mon front porte la Torah. Alors c'est pas ce que demandait forcément Moïse. Mais j'aime assez l'idée qu'ils ont développée. Oui, on veut le faire. On veut avoir la Torah inscrite. Alors bien sûr, le peuple il est invité à méditer cette parole. Et nous le voyons partout, en tout temps, la parole doit être dans la vie du peuple. Gravée sur le cœur, on l'a dit. Ça nécessite du temps, de la compréhension. Ça amène aussi un changement de cœur. Des fois on dit souvent, il y a un diamant brut et il y a un diamant taillé. Ben là c'est pareil, le cœur il n'est pas taillé au début. Et il appelle à être travaillé notre cœur. Après il va même demander de travailler un cœur de chair. C'est plus facile de graver dans la chair. Et c'est un travail long, pénible. Personne n'aime changer de cœur. Parce que forcément, notre cœur, il est bien. C'est les autres qui ont un problème. C'est jamais nous. Parce que c'est pénible de se voir reprendre. C'est pénible que les autres nous montrent ce que nous sommes. Et c'est aussi quelque chose qu'on partage autour de nous. On la partage à nos enfants. Pourquoi on croit ce qu'on croit? Pourquoi on doit faire attention? On en parle quand on est avec nous. Quand on marche. Dans notre maison. Quand on se lève. Quand on se couche. Constamment, dans tous les moments de la vie chrétienne et à l'époque de la vie quotidienne, c'est amené à parler de la parole. Le matin, le soir, partout, imprégné de la parole de Dieu, en la rendant omniprésente dans nos vies. Et c'est comme un barrage, c'est comme une haie protectrice contre le monde. La main et la tête, hein, on a vu, hein, attachée au bien, et la tête remplie de bonnes choses, comme dans Romains. On est renouvelé dans notre intelligence. Jésus nous a fait des êtres intelligents. Dieu nous a fait des êtres intelligents. Il n'a pas dit « vous devez être bête ». Un chrétien n'est pas un crétin. Mais il a dit « nous sommes renouvelés dans notre intelligence ». La consommation de la parole de Dieu, avec Dieu qui nous éclaire, change notre point de vue. Et témoigner en tout temps. Je me rappelle de ma belle-mère, c'était ça. J'allais la chercher au train, je fais « t'as passé un bon voyage ?» Oui, j'ai discuté avec un jeune homme, que Jésus était mort pour lui, je lui ai donné un évangile. Quand elle est à la maternité, il y a l'infirmière qui est venue. « Ah, c'est un bel enfant. Oui, c'est Dieu qui l'a créé, vous savez, Jésus est mort pour vous. » Alors, des fois, nous, on est un peu gênés avec ma femme. En tout temps, la parole imprégnait sa manière de vivre. Imprégnait. Ça fait pas de nous des êtres infaillibles. Ça fait pas de nous des êtres qui sont des champions. Ça fait de nous des êtres qui ont conscience du besoin d'être attachés à la parole de Dieu. Et si la parole est omniprésente, eh ben, c'est la même chose que Paul et Moïse ont dit. Vous avez besoin de la parole. La parole doit être lue, elle doit être échangée, elle doit être expliquée dans les foyers, expliquée entre nous, expliquée le dimanche. On doit en parler constamment. Et c'est ça qui change notre main. Notre main, c'est l'action. Et nos pensées, c'est là aussi le cœur. Tout est changé. Moïse, toujours inspiré par l'Esprit, il montre que nos cœurs ont besoin d'être continuellement baignés de la parole où Dieu parle. Pourquoi ? Pour avoir un esprit et une main bien disposés. Pour faire attention à l'extérieur. Vous voyez, hein ? Écouter Dieu par sa parole à tout âge. Alors, je sais pas si ça se voit bien, mais les mains avaient différentes tailles. On voit une main âgée, une main jeune, une main de femme, une main d'homme. La parole de Dieu se met au niveau de tous. La tiédeur, le refroidissement, le recul de la vie chrétienne viennent parfois d'une vie qui s'est éloignée de la Bible. La Bible fait partie intégrante de la marche chrétienne. C'est la parole de Dieu. Et nous, on l'appelle comme ça. Hein. En tant que chrétien évangélique, on dit ça, la parole de Dieu. Mais si je la pose dans l'étagère, comment Dieu va me parler? Si je ne prends pas le temps de la méditer. Et Dieu te parle encore ce matin par la Bible. Dieu nous parle. Écoutons-le. Il appelait Israël à l'écouter. Il appelle la même chose ici. Chacun d'entre nous et en tant qu'Église. La parole de Dieu, j'allais dire, est un mal nécessaire tous les jours, de tous les instants, pour vivre le plan que Dieu a pour nous, pour moi, pour toi, pour l'Église. La Bible doit être lue avec le soutien du Saint-Esprit et comme carburant pour notre vie. J'avais dit ça à un frère, le carburant du ciel, c'est l'essentiel. L'essentiel pour nos vies, c'est l'essence qui vient du ciel. C'est un carburant pour notre vie, pour notre foi. On est encouragé. Il y a eu quelques prières partage où on a été encouragé par un verset, encouragé par une lecture, encouragé par un psaume. Personnellement, j'ai été encouragé en ce moment, je lis la Bible avec des chapitres tout au long de la Bible. Donc voilà, ça prend peut-être parfois un peu plus de temps, mais on va lire dans 10 livres différents. Mais on voit à quel point la Bible est merveilleuse. Elle se tient du début à la fin. Les promesses qui s'accomplissent, et c'est encourageant. Les promesses s'accomplissent. On est transformé par la Bible. Et Moïse, il dit pas que les paroles doivent être apprises, hein, comme il le dit. Hein. C'est bien, vous pouvez les apprendre par cœur, mais vous devez les appliquer, la main et la tête. La tête changée et la main prête à l'action pour Christ. Et ça, c'est l'action du Saint-Esprit qui nous transforme. J'avais souvent dit ici, sans l'action du Saint-Esprit, je ne pourrais pas vous aimer. Parce qu'on est des cœurs égoïstes. Aujourd'hui, je vous aime parce que Dieu m'a aimé. Et parce que le Saint-Esprit transforme celui que j'étais pour le façonner, pour être au service. Et chacun de nous pourrait dire à quel point Dieu a transformé son cœur. Mais par cette parole qui s'inscrit. Et c'est dans cette même pensée que Paul écrira beaucoup plus tard, dans 2 Corinthiens 3:18. Il dit, le but de cette parole, c'est de nous transformer sans cesse jusqu'à ce qu'on voit la gloire de Dieu. Et il dit, nous tous qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Voilà le but final. Alors on le sait, on est en route, on est dans la sanctification. Et il dit, le but c'est de se plonger le visage découvert dans la parole de Dieu, de la lire, parce que ça s'inscrit dans ce passage où ils lisent et ne comprennent pas. Ils lisent la Bible, mais ils ne la comprenaient pas. Mais nous, on lit la Bible et on peut la comprendre par le soutien du Saint-Esprit en nous. Nous sommes appelés à ressembler à notre modèle parfait, Jésus-Christ. Et je ne pense pas que Jésus-Christ était à un moment donné loin de Dieu. Lui qui était Dieu. Lui qui a prié. On parlait de la prière la semaine dernière. Si Christ a prié, pourquoi nous ne prierons pas ? Christ qui était la Torah incarnée, invitait à venir à lui, invitait à l'écouter, invitait à être prendre du repos, invitait à boire ses paroles, invitait à manger ses paroles. Il se présente comme « Je suis la parole ». Venez, mais venez pas qu'un jour, venez tout le temps, tout le temps. Et nous sommes appelés à ressembler à ce modèle. Alors, c'est difficile, on le sait bien, mais c'est pas une raison pour abandonner. Nous devons marcher de gloire en gloire, comme par le Seigneur. L'esprit, rien n'est perdu si on prend conscience d'un déséquilibre dans notre vie. Et la grâce de Dieu nous aide. C'est pas une condamnation. Parce que dans le livre du Deutéronome, on pourrait lire la fin, il condamne pas, il dit fais-le. Si tu le fais, il y a des belles bénédictions. Mais tu pourras pas le faire. Parce que ton cœur n'est pas encore transformé. Il va falloir attendre cette promesse de Jésus-Christ. Parce qu'il faut la circoncision du cœur pour pouvoir marcher. L'oubli de la parole est l'une des premières sources de la chute dans le monde et le péché. L'oubli de l'écoute de Dieu. Et malheureusement, c'est un risque qu'Israël a pris, et Israël est tombé. Et j'aime beaucoup ce passage, je ne vais pas tout le lire, je vous le conseille de lire chez vous dans 2 Chroniques 34, 14 à 21. Je dis juste qu'on retrouve un livre dans l'histoire, il y a un roi, il dit « Va rechercher dans le temple de l'Éternel », et il trouve un livre. Et au verset 19, c'est le roi Josias, il dit « Lorsque Josias entendit le contenu de la loi, donc du livre, il déchira ses vêtements, puis il convoqua Ilkidja, Ikiam, fils de Shaphnan, Adon, fils de Miché, le secrétaire et Azaïa, l'un des ministres. « Allez consulter l'Éternel pour moi, se dit-il, ainsi que le reste du peuple qui se trouve en Israël et Juda, au sujet des enseignements du livre que je viens de retrouver. Car la colère de l'Éternel est bien grande. Elle s'est répandue sur nous, parce que nos ancêtres n'ont pas obéi à la parole de l'Éternel et n'ont pas appliqué tout ce qui était dans ce livre. » Il a conscience, alors après, Josias, il va faire de belles choses. Il a conscience, quand il entend, il n'avait jamais entendu parler. La parole de Dieu qui devait être transmise, transmets-le à ton enfant. Voilà, tu en parles, elle avait été oubliée. Et quand il l'entend, il se rend compte du péché. Il se rend compte qu'ils ont failli. Et Josias va faire partie de ceux qui va ramener, un des bons rois dans Chronique. Et le royaume sera un peu purifié sous sa régence. Mais on voit, il avait oublié l'oubli de la parole. Et on avait lu ensemble, Néhémie, quand ils lisent la parole, ils pleurent. Ils disent non, ils avaient déjà oublié. Mais voilà, on l'explique et on se réjouit. Parce que la parole nous donne toujours de quoi nous réjouir. C'est pas une condamnation tant que nous sommes encore là, tant que Jésus n'est pas revenu régner en gloire, c'est pas une condamnation. Nous pouvons encore revenir. Nous pouvons encore relire, nous repentir et repartir. Il y a la place à la grâce, il y a la place au pardon, il y a la place à la reprise d'une relation brisée. Comme était dit dans la prière qui a été lue, nous on s'éloigne, mais Jésus ne s'éloigne jamais. Nous on lâche sa main, mais il est toujours prêt à nous la tenir. Et voilà, la parole de Dieu dans tout temps doit être méditée, apprise, mise en pratique, expliquée. L'oubli de la parole ne permet plus d'écouter le Dieu unique, même plein de voix s'élèvent et tout se mélange. Et alors, c'est le début de la ruine. Et on tombe. Et c'est pourquoi, dans les débuts de Actes, il est dit, l'Église, les tout jeunes chrétiens, ils se retrouvaient ensemble, ils persévéraient dans le partage du pain et l'enseignement des apôtres. C'était pas l'enseignement de n'importe qui. C'était l'enseignement de ceux que Dieu avait mandatés pour être parole. Et c'est ça la vérité qu'on doit se rappeler. Dieu nous parle par sa parole, et sa parole, elle est là pour qu'on puisse la lire, pour qu'on puisse s'en imprégner et la vivre. Parce que sinon, notre cœur donne libre cours à notre folie et on voit que ça serait pas beau. Ça serait pas beau. Alors que retenir ? Je vais conclure. Dieu nous parle et transforme nos cœurs, sanctifie des vies. Voilà. C'est aussi marcher dans la sanctification, nous dira l'auteur des Hébreux, sans laquelle personne verra le Seigneur. La lecture de la Bible, c'est une nécessité, c'est pas une option d'une vie chrétienne, c'est une nécessité, ça je suis convaincu. Qu'est-ce qu'on peut conclure ? Parce que je sais bien, j'ai peut-être enfoncé des portes ouvertes pour beaucoup d'entre vous. On sait bien qu'il faut lire la Bible, on sait bien qu'il faut s'en imprégner. Mais on sait que on est tous conscients de nos propres faiblesses, nos propres limites. Quand j'ai préparé ce message, je me suis dit, qui on est finalement pour venir en parler ? Parce qu'on a nos propres faiblesses, nos propres combats. Et on est quand même exhorté à ne pas négliger la parole de Dieu dans son entièreté. On peut pas lire qu'un passage ou que quelque chose qui nous fait plaisir. On a appris à la méditer avec sérieux. Pour nous protéger des fausses doctrines, des faux enseignements, des pensées du monde qui peuvent nous entourer. La tendance à lisser des passages. Non, nous devons l'apprendre avec sérieux. Et la méditer. Ou parfois appeler quelqu'un à nous aider à la comprendre. Tout comme le peuple, nous sommes promis à un royaume qui vient. Le peuple était promis à un pays. Nous, nous sommes payés à un royaume. Un royaume qui vient. Et c'est sûr qu'il va venir. Parce que Jésus est mort, ressuscité en gloire, et il revient. Donc ça, c'est une certitude. Mais en attendant, effectivement, nous, on aime que ce serait tout de suite. On est la génération de l'immédiat. Mais non, on a un temps. Et en attendant, nous devons résister par la foi en Christ à la folie de ce monde. Parce que ce monde est fou. Hein. Pour ça, nous avons entendu la prière, la lecture. Se rappeler qui est Dieu sont des bases essentielles pour vivre une vie de disciple. La Bible est une lettre d'amour que Dieu nous a donnée. On ne peut pas la négliger. C'est un trésor. Cette parole ne passera pas. Il y a quelques exhortations avant de finir. Hein. Alors, voilà les exhortations. La Bible qui exhorte d'elle-même, de tout ce qu'elle est. On l'a aussi chanté. Éphésiens 6, 17. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. On l'a chanté. La parole est une épée. Et dans 1 Pierre 1, 23, « Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité, pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur, puisque vous avez été régénérés, non pas par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, qui est la parole vivante et permanente de Dieu. » Paul est en train de dire, voilà, cette parole, elle est vivante. C'est Pierre qui nous dit, voilà, c'est ça, vous avez été régénérés. On lit pas la parole pour que Dieu nous aime, mais c'est parce qu'il nous aime qu'on lit sa parole. Et dans 2 Timothée 3, 14, 17, voilà, Paul va adresser ça à Timothée, mais je pense qu'on peut le prendre à chacun d'entre nous. Pour toi, reste attaché à tout ce que tu as appris et reçu avec entière conviction. Tu sais de qui tu l'as appris. Depuis ton enfance, en effet, tu connais les saintes écritures, la parole de Dieu. Elles peuvent te donner la vraie sagesse qui conduit au salut par la foi en Jésus-Christ. Car toute écriture est inspirée, est utile pour enseigner, réfuter, redresser et apprendre à mener une vie conforme à la volonté de Dieu. Ainsi, l'homme de Dieu se trouve parfaitement préparé, équipé pour accomplir toute bonne œuvre. J'aime beaucoup ce qu'il dit à Timothée. Il dit, mener une vie conforme à la volonté de Dieu. Il ne dit pas que ce serait une vie facile. Il dit que ce serait une vie conforme à la volonté de Dieu. Et ça, des fois, on peut avoir malheureusement tendance à le confondre. Parfois, on a appelé au service, on a appelé dans des difficultés. Je ne dis pas que c'est plaisant, mais je dis que c'est une vie qui est parfois selon la volonté de Dieu. La Bible se présente comme une épée avec laquelle nous pouvons mener nos combats. Ne passons pas à côté des bénédictions. Mais on a la pleine liberté de la lire. Ça, c'est le Saint-Esprit qui nous façonne par sa parole. Et comme Timothée, on a eu peut-être la chance de vivre dans des milieux chrétiens où on a appris déjà tout petit. Mais ne l'oublions pas, restons attachés à ça. C'est ce qui nous amène à vivre toute bonne œuvre dans la volonté de Dieu. Voilà, alors ce matin, je vais à nous rappeler, est-ce qu'on a envie d'entendre Dieu ? Si on a envie, nous sommes appelés à lire la Bible, nous sommes appelés à l'entendre parler et à l'écouter.